franceinter.fr.
Dans toutes les cellules de tous les êtres vivants, la molécule d'ADN est composée de quatre paires de bases qui, mises les unes à la suite des autres et répétées, forment le code source de la vie. Et bien, des chercheurs américains et français viennent de casser cette règle puisqu'ils ont réussi à intégrer deux nouvelles lettres synthétiques dans l'alphabet du vivant. Bonjour Thomas Lavergne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour en parler. Vous êtes chimiste, chargé de recherche CNRS au département de chimie moléculaire de l'université Grenoble-Alpes et vous êtes co-auteur justement de ces travaux. Alors, à quoi ça ressemble d'une bactérie qui n'a plus 4 mais 6 bases dans son ADN?
Alors, vu d'un microscope, ça ressemble à une autre bactérie. Vu de plus près, ça ressemble à une bactérie dont l'ADN semi-synthétique n'est plus composé donc de ATGC mais de ATXCY. Donc 6 nucléotides et 3 paires de bases.
Vous avez ajouté X et Y alors?
Alors X et Y, c'est le nom que leur a donné la presse finalement. Nous, on avait des acronymes un peu plus compliqués, mais on peut s'en tenir à X et Y.
Alors, avant de nous expliquer comment vous avez fait, j'avais surtout envie de vous demander pourquoi. Quelle est la motivation de ce genre de recherche?
Alors, la motivation, elle est vraiment double. Hein. Il y a un aspect fondamental. Donc, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs milliards d'années, le vivant fonctionne sur un système à 4 bases, à 2 paires de bases. Et donc, l'idée, c'était de savoir s'il était possible finalement d'introduire un élément artificiel dans le système, chose qui a donc été démontrée. Donc ça, c'est intéressant pour la conception même de la vie au sens biologique hein, et de la possibilité de l'émergence ou de l'existence d'autres formes de vie. Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'on peut enrichir comme ça un système qui a été optimisé par des millions d'années d'évolution. Donc ça, ça ouvre des portes sur la biologie de synthèse. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Et après, il y a un aspect d'application parce qu'à partir d'un génome étendu, on peut imaginer construire des protéines artificielles, semi-synthétiques, qui pourraient avoir des applications, par exemple, dans la médecine.
Alors, ces nouvelles bases, vous ne les avez pas piochées dans la nature, elles sont synthétiques. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées et créées? Et avant de répondre, si vous pouviez juste rappeler ce qu'est une base aussi en passant, ce serait parfait.
Alors, en fait, quand on parle des quatre bases, on parle de quatre nucléotides qui sont composés d'un élément qui est le sucre, hein, c'est un ribose dans le cadre du vivant, et puis d'une base qui est un hétérocycle dans le terme du chimiste et qui va s'associer l'un à l'autre. Par exemple, A s'associe à T et G s'associe à C en formant ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Donc, pour répondre à votre première question, sur la conception de ces bases, on s'est d'abord dit qu'on allait plutôt faire un système orthogonal à ce système de liaisons hydrogènes. Donc, des interactions finalement entre X et Y qui seraient différentes des interactions entre AT et GC. Et donc pour ça, on a développé des liaisons, plutôt des interactions de type hydrophobe. Donc c'est l'interaction finalement qui fait que l'huile ne se mélange pas avec l'eau, c'est-à-dire qu'une molécule d'eau et une molécule d'eau vont s'associer entre elles par liaison hydrogène, et une molécule d'huile et une molécule d'huile vont s'associer ensemble. Donc de la même façon, on a conçu des bases finalement qui sont hydrophobes et qui vont bien se reconnaître entre elles. Donc après, c'est un jeu d'essais et d'erreurs, hein. C'est des centaines, des milliers de composés qui ont été synthétisés, et des paires qui ont été testées jusqu'à trouver finalement une paire qui se reconnaissait très bien et qui était prise en charge par les mécanismes biologiques naturels.
Alors justement, Thomas Lavergne, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus avec les équipes américaines? Ça demande beaucoup de temps, c'était très compliqué. Le jour où vous êtes parvenu à cette fabrication de cette base synthétique, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Alors, donc c'est des travaux qui ont été initiés par Floyd Rosberg, hein, qui est le porteur principal de toutes ces études, à San Diego, donc depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc moi, j'ai rejoint son équipe en 2010, que j'ai quitté pour rejoindre la France et le CNRS. Donc je travaille maintenant en collaboration. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est une quinzaine d'années pour arriver à identifier finalement le meilleur candidat. Donc tout ce travail-là, il se fait par contre in vitro, hein, dans des tubes à essai. Mmh. Et le passage au vivant est arrivé courant 2012-2013, où finalement ce système a été testé dans la cellule.
Et alors le succès, qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment?
Bon, c'est assez formidable, parce que finalement, même moi, quand j'ai vraiment démarré sur ces travaux en 2010, on avait un système qui fonctionnait bon an mal an dans un tube à essai, qu'on a optimisé pour qu'il fonctionne quasiment comme un système naturel. Effectivement, le passage dans la bactérie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le premier résultat, oui, c'était quelque chose d'extraordinaire au laboratoire.
Quand vous dites qu'on va pouvoir, avec cette technique, créer des nouvelles protéines, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le domaine précis des applications possibles?
Donc au niveau thérapeutique, c'est ça votre question?
Vous venez de répondre. Donc c'est en thérapeutique que c'est intéressant d'utiliser ces bactéries?
Alors en premier lieu, oui, alors c'est pas limité à ça, mais en premier lieu, l'idée, la première application, c'est d'aller vers la thérapie à partir de protéines artificielles. Donc les protéines en elles-mêmes, ça a révolutionné un peu la médecine. Hein. La plupart des composés maintenant développés et vendus sont des protéines, hein, pour traiter tout type de maladie. Et donc là, l'idée, c'est de venir rajouter finalement de nouvelles fonctions qui ne sont pas présentes au sein de protéines naturelles pour finalement atteindre de nouvelles cibles ou échapper à des mécanismes de résistance et ainsi de suite.
Vous voulez dire par exemple combattre la résistance aux antibiotiques ? Je ne sais pas, je cherche des exemples.
Alors c'est un exemple parfait puisque certains antibiotiques sont des peptides. Les peptides, c'est finalement des unités qui forment les protéines. Donc on va pouvoir effectivement fabriquer des antibiotiques de nouveaux types avec finalement de nouvelles fonctions et des antibiotiques qui pourront éventuellement échapper aux mécanismes de résistance ou en tout cas qui seront nouveaux vis-à-vis des bactéries qui sont présentes. Elles auront peut-être plus de difficultés à contourner leur activité.
Alors Thomas Laverne, évidemment, il faut aborder le volet éthique hein, de ce type de découverte et de travaux avec un volet apprenti sorcier, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des risques justement de dissémination dans la nature de cet ADN synthétique, extraterrestre, comment on l'appelle ?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que le système semi-synthétique fonctionne tant qu'on le nourrit des composantes X et Y. Donc les composantes X et Y, elles sont pas naturellement présentes dans notre environnement. Par exemple, ATGC, les molécules naturelles, sont présentes dans l'environnement, dans la nourriture et ainsi de suite. Et elles sont même produites finalement par les organismes. X et Y, c'est uniquement synthétique, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines de synthèse. Donc si un organisme venait à partir dans la nature par exemple, il ne retrouverait pas son X et Y et soit il viendrait à disparaître, soit à se convertir en un système naturel. Je rajoute que dans l'étude qui a été publiée ici, il y a tout un système d'édition du génome qui a été mis en place justement pour éliminer l'ADN qui aurait muté. C'est-à-dire l'ADN qui serait passé de X et Y par exemple à AT, ce qui arrive dans un faible pourcentage des cas. Et une fois que cette mutation a lieu, le système de réparation détruit l'ADN qui a muté. Donc c'est un deuxième système finalement de protection.
Ça veut dire que vous avez modifié la bactérie pour qu'elle-même vérifie s'il n'y a pas d'erreur dans ce que vous avez créé vous-même.
Tout à fait. Au sein du génome de la bactérie est installé un gène qui code pour une protéine, Cas9, qui est un système qui a été développé il y a quelques années et qui a beaucoup de popularité dans l'édition des génomes, et qui permet justement de venir corriger, de venir couper l'ADN quand celui-ci est passé d'un X à Y à un système AT.
Donc il y a une soupape de sécurité dans cette invention.
Tout à fait. Donc une soupape de sécurité plus finalement l'absence de X et Y dans l'environnement, qui est une deuxième élément de sécurité.
Je reviens sur la question de Mathieu. Vous avez bouleversé, là, en 15 ans, 3 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre. Ça fait pas un peu froid dans le dos, quand même, quand vous le dites comme ça ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas créé un organisme totalement synthétique. On a finalement utilisé ce que la nature a mis des millions d'années à développer pour enrichir, pour faire quelque chose de complémentaire. Froid dans le dos, non, pas forcément. On voit vraiment les applications directes de ça. Après, la portée de ces travaux, je pense qu'il faudra attendre plusieurs années pour vraiment vous répondre.
Avec donc cet organisme semi-synthétique, hein, pour reprendre le terme exact, Thomas Laverne. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage. Puis ben, bravo quand même,
oui,
pour cette performance. Et puis on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine même, Axel.
Parfaitement.
Lundi. Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des embryons de chimères homme-cochon. C'est l'expérience inédite réalisée par des chercheurs américains et rapportée par le journal Cell dans le cadre de travaux sur les cellules souches. Les scientifiques ont introduit des cellules humaines dans des embryons de porc afin de savoir si celles-ci allaient se développer dans leur hôte. Et la réponse est oui. C'est une première étape réussie pour ces scientifiques qui étudient la croissance et la spécialisation des cellules humaines pour à terme savoir si l'on pourrait, dans le futur donc, fabriquer artificiellement des organes humains. 93% de femmes traitées pour un cancer du sein souffrent des effets secondaires prononcés, publié dans Cancer. Cette étude menée sur presque 2000 patientes aux États-Unis montre ainsi que 45% des malades souffrent d'effets secondaires très prononcés comme des douleurs, des nausées ou des constipations. Ces résultats sont d'autant plus surprenants qu'un tiers des plaignantes n'ont subi ni chimiothérapie ni radiation. En plus des gènes ou des souffrances occasionnées, ces effets secondaires entraînent des rendez-vous médicaux et des traitements supplémentaires, ce qui coûte du temps et de l'argent aux patients comme aux praticiens. Et puis les voitures semi-automatisées ne sont pas si sûres. Des chercheurs de l'université de Southampton se sont intéressés à ces voitures auxquelles on peut confier le volant sur certains trajets. En s'intéressant au temps que mettent les conducteurs pour reprendre le contrôle du véhicule dans des situations non dangereuses, les scientifiques ont mesuré que cette durée pouvait aller de moins de 2 secondes à plus de 25 secondes. Or, des temps de réaction aussi élevés peuvent être dangereux même dans des situations non dangereuses. Les chercheurs considèrent donc que ces durées inattendues doivent être prises en compte dans le design de ces systèmes système d'assistance, ce qui n'est pas encore le cas.